en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La séance est ouverte. Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur le général de corps d'armée, Mesdames et Messieurs les représentants des villes de Toulouse et d'Angers, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au Palais de l'Institut de France et je vous remercie au nom de tous mes confrères, membres et correspondants de l'Académie des Beaux-Arts pour votre présence à cette séance. Les travaux de notre Académie ont bien entendu repris depuis de nombreuses semaines maintenant, mais cette séance publique, dite solennelle, marque un moment important de la vie de notre compagnie. Nous célébrerons en effet dans quelques instants la vitalité de la création artistique de notre pays à travers la remise des nombreux prix que décerne l'Académie des Beaux-Arts. Mais avant cela, et comme le veut l'usage chaque année au moment de l'ouverture de cette séance, il m'appartient de saluer la mémoire de nos confrères disparus au cours de l'année écoulée. Aussi, c'est avec émotion que mes pensées se tournent à cet instant vers ceux qui nous ont quittés ces derniers mois. Ousmane Sow, membre associé étranger de notre Académie, disparu le 1er décembre 2016, et Jeanne Moreau, membre de la section création artistique dans le cinéma et l'audiovisuel, disparu le 31 juillet 2017. Nous adressons à leurs proches, ici présents avec nous aujourd'hui, nos pensées affectueuses. C'est à Dakar, la ville qu'il avait vue naître le 10 octobre 1935, que notre confrère Ousmane Sow s'est éteint le 1er décembre 2016. Il a emporté avec lui ses projets et ses rêves, entouré des siens, mais certainement aussi de certains de ses guerriers Maasai du Kenya, de ses Indiens d'Amérique ou de ses lutteurs de l'ethnie Nuba du Sud-Soudan. Ousmane Sow confiait n'avoir jamais rêvé d'être un artiste. Il en fut pourtant un éminent, premier artiste africain reçu au sein de notre Académie. Pour notre confrère Jean Cardo, qui prononça le discours d'installation sous la coupole le 11 décembre 2013, la vie d'Ousmane Sow tenait du conte et du roman picaresque. Que dire en effet de cet enfant sculptant par jeu de petites figurines dans des blocs de pierre ramassés sur les plages de son quartier de naissance ? De ce fils de comptable quittant son Sénégal natal pour Paris, où il fit tous les métiers avant de devenir infirmier, puis kinésithérapeute, métier dont il garda, à n'en pas douter, une connaissance aiguë de l'anatomie humaine et des muscles. Au Sénégal, où il retourne après l'indépendance, ou à Montreuil, où il finit par installer son cabinet, la sculpture reste son jardin secret, un pur plaisir de création dont les réalisations seront hélas pour la plupart détruites. Ces années d'apprentissage lui permettront néanmoins de concevoir ce mélange de sable, de paille, de terre et d'une vingtaine d'autres produits macérés dont il a probablement emporté le secret. Ce matériau lui permettra, au tournant de la cinquantaine, d'abandonner son cabinet pour se consacrer pleinement à son atelier. À partir de ce jour, son immense talent ne cessera d'être révélé au public, du Centre culturel français de Dakar en 1987 à la Documenta de Cassel 6 ans plus tard, du Palazzo Grassi à Venise en 1995 au Pont des Arts en 1999, où il exposera 35 œuvres que plus de 3 millions de personnes viendront admirer à quelques mètres d'ici, entre le Louvre et l'Académie. Les séries, les ethnies d'Afrique puis d'Amérique inspireront ces années avant que les suivantes ne soient consacrées à représenter ceux qui l'ont aidé à se construire en tant qu'homme, qu'il s'agisse de son père, de Mandela, de Hugo ou du général de Gaulle, délaissant partiellement sa glaise pour utiliser le bronze. Il avait fait le choix de la nationalité sénégalaise, mais n'en restait pas moins un grand ami de la France, un ami des arts. En passant d'un continent à l'autre, en créant des œuvres profondément enracinées dans sa terre africaine, mais éminemment universelles, Ousmane Sow, que l'on a eu tant de mal à imaginer fragile et malade, restera pour nous l'image de la vitalité, de l'humanisme et de l'indépendance. Indépendante, profondément indépendante, Jeanne Moreau l'a également été tout au long de sa vie. Elle a quitté la vie et son tourbillon un matin d'été, le 31 juillet de cette année à Paris, ville où elle est née de l'union d'un père restaurateur et d'une mère danseuse d'origine anglaise. Elle sera quant à elle comédienne, chanteuse, actrice et réalisatrice. Comment parler de sa carrière, ici et maintenant, en quelques minutes ? Que vous dire de plus que vous ne sachiez déjà ? Ou que notre confrère Pierre Cardin avait si bien raconté de cette vie aux mille vies dans le discours d'installation qu'il avait prononcé sous cette coupole le 10 janvier 2001. C'est sur les planches de théâtre que Jeanne Moreau a fait ses premiers pas. Théâtre qu'elle ne délaissera jamais tout au long de sa carrière, où elle jouera dans une soixantaine de pièces. Le théâtre donc, mais très vite le cinéma, bien entendu. Ses débuts dans « Dernier amour » de Jean Stély, sorti en 1949, sa rencontre avec Louis Malle, qui lui offre un rôle décisif pour sa carrière dans « Ascenseur pour l'échafaud », celle avec François Truffaut, bien sûr. Elle ne cessera dès lors d'asseoir son statut de star internationale et de jouer sous la direction des plus grands réalisateurs, Malle encore, Truffaut toujours, mais aussi Orson Welles, Jacques Demy, Buñuel, Antonioni, Louzet, Wenders, Blier et combien d'autres encore. Jeanne Moreau passera aussi à la réalisation, avec notamment Lumière, un film sur l'amitié féminine, mais aussi d'autres films et documentaires dans lesquels elle rendra hommage aux actrices de son époque. Et que dire des nombreux prix et récompenses qui sont venus régulièrement couronner son talent, son audace, sa rigueur, son jeu, son insoumission, son exigence. De 1960, où elle reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine pour Moderato Cantabile de Peter Brook, à 1992, où un César de la meilleure actrice récompense sa prouesse dans La vieille qui marchait dans la mer de Laurent Henneman, de 1998, où elle obtient un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, après avoir reçu un César d'honneur en 1995 et avant de recevoir un super César d'honneur lors des Césars 2008, ses pairs n'ont jamais manqué de saluer le talent de Jeanne Moreau. Et comme elle l'a si souvent chanté dans cette ritournelle devenue si célèbre, sa voix si fatale, son beau visage pâle nous émurent plus que jamais. À la mémoire de Jeanne et d'Ousmane, je vous propose de vous lever et d'observer un moment de silence. Je vous remercie. Je vous remercie et je vous propose de prolonger ce moment de recueillement en écoutant les jeunes chanteurs de la maîtrise du Conservatoire de Toulouse, lauréate du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2017, dirigé par Marc Obstad. Successivement, Guillaume Bouzignac, Tota Pulcraes, Zoltán Kodály, Estidal, Zoltán Kodály, Turot, Essik, Sigani et Maurice Duruflé, Tota Pulcraes. Je remercie Marc Obstat et les élèves de la maîtrise de Toulouse pour cette magnifique interprétation. Je passe maintenant la parole au vice-président de notre académie, Patrick De Carolis, qui va proclamer la première partie du palmarès 2017 de l'Académie des Beaux-Arts.
Merci Madame la Présidente, merci chère Edith. Avant de procéder à la lecture du palmarès et à la distribution des prix décernés cette année, je souhaite bien entendu saluer tous les donateurs d'hier et d'aujourd'hui qui nous permettent de distribuer chaque année ces distinctions et de perpétuer ainsi notre action de soutien en faveur de la création qui est au cœur, vous le savez, de nos missions séculaires. Je pense tout particulièrement à nos confrères Pierre Cardin, Michel David Veil, Marc Ladré de la Charrière, Léonard Janada, et bien sûr à notre ami Jean-Pierre Grivori. Notre gratitude se porte également vers les disparus Simone Del Duca, qui fut correspondante de notre académie et dont La générosité nous permet de distribuer chaque année, par l'intermédiaire de l'Institut de France, 3 grands prix, mais aussi Simone Lursa, à travers le grand prix de bibliophilie, Jean Lursa ainsi que Mario et Hélène Avati, donc, dont le mécénat perdure à travers le grand prix de gravure créé sous l'égide de notre académie. Je veux enfin naturellement saluer la mémoire de Liliane Bettencourt qui nous a quittés le 21 septembre dernier. Liliane Bettencourt aura à travers la fondation qui porte son nom et celui de son mari, notre ancien confrère André Bettencourt, et dont nous saluons ici les représentants présents aujourd'hui, conduit une action de mécénat déterminante en France pendant 28 ans, action dirigée, vous le savez, vers la recherche scientifique, mais également l'univers artistique. En 2015, nous avons fêté les 25 ans du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral créé par nos deux institutions, prix qui a accompagné toute une génération de chanteurs et accompagné le rayonnement de cette pratique à un niveau d'excellence inégalé. La mémoire de Liliane Bettencourt perdurera en bien des réalisations et donc, entre autres, pour nous, ici à l'Académie des Beaux-Arts, à travers ce prix que la Fondation a souhaité poursuivre à nos côtés en amplifiant encore son rayonnement et dont nous venons d'entendre le dernier lauréat. Grâce à tous ces mécènes d'hier et d'aujourd'hui, notre compagnie peut ainsi continuer de protéger la création artistique, qu'ils en soient tous ici vivement et profondément remerciés. Dans quelques instants, donc, une 50aine de prix vont être remis, couronnant des artistes accomplis, mais également, et pour majorité, de jeunes artistes au seuil de leur carrière. Outre le soutien financier substantiel qui leur est ainsi apporté, ces distinctions représentent également une reconnaissance institutionnelle indéniable, dont nous souhaitons qu'elle soit le prélude de très 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 belle carrière artistique. Alors je vais donc maintenant procéder à la proclamation du palmarès 2017 de l'Académie des Beaux-Arts et j'invite donc les lauréats à l'appel de leur nom à me rejoindre pour venir chercher leur prix à la tribune et de ne pas oublier de faire un beau sourire au photographe qui est au milieu afin d'immortaliser ce court moment. Voilà. Alors, nous allons tout d'abord remettre les prix de la Fondation Simone et Sino Del Duca. Ces prix de l'Institut de France sont attribués sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts. Et le Grand Prix artistique en peinture est décerné à Jean-Michel Alberola. Le prix de sculpture de la Fondation Simone et Sino Del Duca, prix de l'Institut de France, attribué sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts, est décerné à Yéphane de Villiers. Enfin, les prix de composition musicale de la Fondation Simone et Sino Del Duca, prix de l'Institut de France attribué sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts, sont décernés à Frédéric Verrières pour l'œuvre de commande et à Emmanuel Bertrand pour le prix d'interprétation. Je les appelle tous les deux ensemble à la tribune. Je vais à présent remettre le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, sans aucun suspense, vous l'avez compris, puisque nous avons déjà eu la chance de les entendre. Le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2017 est donc décerné à la Maîtrise de Toulouse, dirigée par Marc Obstad. Nous en venons au prix Pierre Cardin. Et j'invite les lauréats à me rejoindre donc successivement à la tribune. Le prix Pierre Cardin en peinture est décerné à Guillaume Bresson. Le prix Pierre Cardin en sculpture est décerné à Hideko Miyata. Le prix Pierre Cardin en architecture est décerné à Amelia Tavella. Le prix Pierre Cardin en gravure est décerné quant à lui à Jérémy Solomon. Enfin, le prix Pierre Cardin en composition musicale est décerné à Aurélien Maestracci. Le prix de gravure Mario Avati, Académie des Beaux-Arts, est décerné à Vandeline Schoenfeld. Le prix François-Victor Nourry, prix de l'Institut de France attribué sur proposition de la section création dans le cinéma et l'audiovisuel de l'Académie des Beaux-Arts, est décerné à Hubert Charuel. Le prix de photographie Marc Ladré de la Charrière, Académie des Beaux-Arts, est décerné à Claudine Doury. Qui est bien familiarisé avec la photographie, donc. Le prix du Cercle Monterland, Académie des Beaux-Arts, est attribué cette année à L'art du XIXe siècle, un nouveau regard, les écrits de Jacques Tuillier, et j'appelle à me rejoindre M. Serge Lemoine, qui a coordonné cet ouvrage, ainsi que Mme Jeanne Faton, qui représente les éditions Faton. Nous remettrons le diplôme à Jeanne Faton un peu plus tard, donc. Le prix de la Fondation Pierre Janada en sculpture est décerné à André Rabou. Je vais à présent remettre les prix de peinture Achille Foulde Stirbé, prix décerné au Salon des artistes français, et j'invite les lauréats à me rejoindre. Le premier prix est décerné à Ada Sir Van Essen. Le deuxième prix est décerné à Élise Collet-Soravito. Le troisième prix est quant à lui décerné à Claude Cogeau-Carou. Et enfin, le quatrième prix est décerné à Philippe Tellin. Est-il présent ? Non, je crois qu'il est absent. J'invite maintenant les lauréats du prix de dessin Pierre-David Veil, l'Académie des Beaux-Arts, à me rejoindre à la tribune successivement. Et les lauréats sont Katarzyna Wisiolek pour le premier prix. Le deuxième prix est attribué à Yann Ivinek. Le troisième prix a été attribué à Liliane Coquillot, qui est absent, mais que je vous demande d'applaudir. Enfin, une mention a été décernée à Christelle Théa, que j'invite à me rejoindre. Le prix Bernier est partagé entre Alain Jaubert pour son ouvrage « Turner, les carnets secrets » paru aux éditions Cohen et Cohen et Thomas Schlesser pour « L'univers sans l'homme, les arts contre l'anthropocentrisme » paru aux éditions Hazan. Le prix Georges Coulon en sculpture, prix de l'Institut de France, attribué sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts, est décerné à Cédric Le Corf. En architecture, le prix Françoise Abella est partagé. Il est partagé entre Ophélie Ferredi et Émilie Printemps. J'appelle donc Ophélie Ferredi ainsi que Pierre Angèle, à qui je vais remettre le prix d'Émilie Printemps, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui. Ouais. Merci. Le prix Jean Lursa, couronnant un ouvrage de bibliophilie, prix de la Fondation Jean et Simone Lursa, est attribué à Sol y sombra, 1er mars 1938, gravure à l'eau forte de Pierre Collin, accompagnée du poème de Pablo Picasso, dont la postface est signée Androla Michael, et j'appelle donc Pierre Collin. En sculpture, nous avons cette année le plaisir de remettre un nouveau prix. Ce prix est créé en mémoire de Paul Niklaus, qui fut membre de l'Académie de 1943 à 1958. Ce premier prix, Paul Niklaus, est donc décerné à Arlette Gignoux. Le Grand Prix d'Orgue, Jean-Louis Florenz, Académie des Beaux-Arts, est décerné à Laurane Liorca. Le prix Nadia et Lily Boulanger de composition musicale est attribué à François Meymoun. Les prix Paul-Louis Weller sont décernés à Vladimir Lalique en peinture et à Claudio Locatelli en sculpture, et je les appelle tous deux à me rejoindre. Merci, messieurs. Le prix René Duménil est attribué à André Lipschke pour son guide de l'opéra russe publié aux éditions Fayard. Enfin, le prix Colmont en peinture, prix décerné au Salon des artistes français, est attribué à Simon Bobotte.
Merci, cher confrère, mon cher Patrick. Nous poursuivons dans un instant la proclamation de ce palmarès 2017. Avant cela, je dois dire que c'est non sans une grande émotion que je vous propose maintenant d'écouter l'Orchestre Colonne, placé sous la direction de notre secrétaire perpétuel Laurent Petit-Girard, pour la création d'une œuvre de notre regretté confrère Charles Chêne, qui nous a quittés le 24 juin 2016. L'Académie des Beaux-Arts est aujourd'hui très fière de pouvoir donner à écouter pour la première fois, en votre présence, chère Madame Chêne, son concerto pour violoncelle et orchestre à cordes qu'il avait souhaité nommer Clair-obscur. Charles Chêne ne l'entendra jamais avant sa mort. À la question Clair-obscur, pourquoi ce titre et pourquoi Concertstück pour une œuvre concertante qui a les caractéristiques d'un concerto pour soliste à cordes, voilà ce qu'avait répondu le compositeur. Je dois avouer tout d'abord une référence picturale et mon goût pour les peintres du XVIIe siècle qui ont enrichi l'école du clair-obscur. Je pense en particulier à Caravage, Delatour et tout spécialement à Zurbaran qui m'a tant impressionné en Espagne au monastère de Guadalupe. C'est en souvenir de tout ceci que j'ai imaginé mon Concertstück. Les oppositions de couleurs vives et parfois violentes se traduisent en musique par des contrastes d'intensité, de mouvement, de caractère quelquefois rêveur, souvent véhément, voire violent, qui crée la forme de cette pièce en un seul mouvement, d'où le sous-titre de Concertstück. L'instrument soliste est roi et porte tout le poids des diversités musico-picturales voulues. Brillant, virtuose, en osmose avec l'orchestre à cordes, avec lequel il doit faire corps tout au long de cette œuvre. Le violoncelle est avant tout le ton et le moteur d'une musique qui reste toujours expressive. Le Concertstück a été écrit alors que j'avais entendu Damien Ventula et que j'appréciais sa technique, sa présence de soliste, sa sonorité et sa musicalité. C'est donc tout à fait à lui que je pense pour la création de cette œuvre et que j'espère le plus grand succès pour cette création avec orchestre à cordes. Mesdames et messieurs, nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir entendre aujourd'hui Damien Ventula pour cette création mondiale avec l'Orchestre Colonne, placée sous la direction de son directeur musical, Laurent Petit-Girard.
Thank you. Thank you.
Un grand merci à l'Orchestre Colonne, à Damien Ventula et Laurent Petit-Gérard d'avoir fait revivre le souvenir de notre confrère que nous aimions tous beaucoup. Je donne de nouveau la parole à notre vice-président, Patrick De Carolis, pour la suite et la fin de la proclamation du palmarès 2017 de l'Académie des Beaux-Arts.
Merci Madame la Présidente, on va essayer de garder le tonus de ce violoncelle. Nous en venons en effet au prix Bastien Lepage en peinture et ce prix décerné au Salon des artistes français est attribué à Victor Grusvent. Le prix Paul Marmottan est attribué à Thérèse Burolet pour son ouvrage Bartholomée, la redécouverte d'un grand sculpteur publié aux éditions Athéna. Madame Burolet est absente et je demande donc à Nicolas Gourand de bien vouloir la représenter. En sculpture, le prix Bréauté, décerné au Salon des artistes français, est attribué à Laurence Maliard. Le prix Danian Bouvray, en peinture, également décerné au Salon des artistes français, est attribué à Edgar Manuel Marcos. En composition musicale, le prix André Caplet, décerné à Yassen Vodenich-Aroff. Le prix Frédéric et Jean de Vernon, qui récompense un sculpteur, est décerné à Thierry Gillotte. Le prix Tornoff Loeffler en composition musicale est décerné à Michel Reverdy. Le prix Verdaguer en peinture, prix de l'Institut de France attribué sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts, est décerné à Katarina Termacic. Nous en arrivons au prix d'encouragement. Prix d'encouragement à de jeunes artistes sont ainsi récompensés en peinture. Rodolphe Mabille. En sculpture, le prix d'encouragement est attribué à Annie Lacour. Pour le prix d'encouragement en gravure, nous appelons à présent Sylvain Salomovitz. En composition musicale, le prix est attribué à Camille Pépin et Fabien Cali. Enfin, j'ai le plaisir, pour terminer cette remise de prix, d'appeler Jules Valentin Boucher, lauréat du prix d'encouragement en architecture. C'est à vous, Madame la Présidente.
La lecture du palmarès est à présent terminée. Au nom de l'Académie des Beaux-Arts, de ses membres associés, de ses correspondants, j'adresse mes plus sincères et chaleureuses félicitations à l'ensemble des lauréats que je vous propose d'applaudir une dernière fois. C'est là que je vais faire... Oui. Il est parti. Il est parti.
Oui, je tenais, avant la suite du programme musical, à saluer Damien Ventula. Parce que, vous savez, les compositeurs, être joués de leur vivant, c'est une chose. Mais avoir des interprètes qui continuent à se battre pour des compositeurs de musique contemporaine, une fois qu'ils ont disparu, c'est beaucoup plus rare. C'est extrêmement méritoire, en dehors du fait que c'est, comme vous l'avez entendu, un merveilleux musicien. C'est extrêmement courageux et je suis très heureux, et d'ailleurs, de vous dire que ce concerto que vous venez d'entendre, nous le jouons samedi dans la saison de l'Orchestre Colonne, Salvagram, parce qu'il faut faire vivre ses œuvres. Et je voulais aussi vous dire à quel point j'ai été sensible à la qualité, comme mes confrères, extraordinaire de cette maîtrise que nous avons vu de loin, et j'aimerais bien que ces jeunes filles et jeunes gens descendent au centre pour qu'on les voie tous venir nous voir.
Nous allons maintenant écouter le premier mouvement de la 4e symphonie de Beethoven, interprété par l'Orchestre Colonne, placé sous la direction de Laurent Petit-Gérard.
Thank you.
Bravo, mon cher confrère, pour cette belle énergie. La parole est maintenant à notre secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Girard, pour un discours qu'il a souhaité intituler « El Sistema, les orchestres de papier à l'excellence musicale ».
El hecho de que la música expresa lo invisible, lo inefable, ¿verdad? La hace particularmente fecunda en creatividad. Su misterio, la posibilidad de expresar lo que solamente ella puede expresar y ningún otro arte, la hace prolífica, la hace inmensamente accesible a la sensibilidad más profunda. Además, la música penetra quizá más profundamente en el ser humano que otras artes.
Le fait que la musique puisse exprimer l'invisible, l'ineffable, donne une forme de créativité particulièrement féconde. Cette capacité mystérieuse et unique d'exprimer ce que ne peuvent pas exprimer d'autres formes d'art lui confère un potentiel infini et une intense sensibilité. Vous venez d'entendre José Antonio Abreu, musicien et économiste vénézuélien, fondateur en 1975 de El Sistema, réseau national d'orchestres d'enfants, donner cette magnifique définition de la musique, illustrée par le solo de flûte de la seconde suite de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Mon but premier est d'aider la jeunesse de mon pays. Pour moi, explique-t-il, la racine du problème social réside dans l'exclusion. Alors il faut lutter pour inclure le plus de gens possible, tous si on peut, dans ce magnifique univers, celui de la musique. José Antonio Abreu a eu la force de persuasion nécessaire pour convaincre tous les gouvernements qui se sont succédés depuis près de 40 ans de soutenir cette incroyable initiative. Placer les enfants du Venezuela, essentiellement les plus défavorisés, dès leur plus jeune âge, dans l'univers de la musique classique symphonique. L'orchestre implique l'écoute et le respect des autres. On y apprend la concentration, la solidarité, et les enfants en tirent une discipline qui les accompagnera toute leur vie. La rigueur que cela implique est transcendée par l'émotion partagée à l'approche des grandes œuvres symphoniques. José Antonio Abreu a eu l'intelligence dès le début de placer son action sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et non sous celle du ministère de la Culture, ce qui explique sa survie au milieu des troubles que son pays a pu connaître. Son action a non seulement formé un nombre impressionnant d'enfants, plus de 2 millions, elle a également façonné un public enthousiaste avec un engouement incroyable pour l'orchestre symphonique.
Todo el mundo en Venezuela ama la música, le gusta el baile, le gusta cantar, le gusta música popular, música muy culta, música muy académica, música, digamos, extraída de las entrañas mismas de la comunidad.
No solamente que tocamos, se canta, se vive, se expresa, se siente triste. Hay muchas condiciones que la música te da para disfrutar.
On a vu ici, grâce à l'excellent film de Paul Smaxny et Maria Stonemeyer, consacré à El Sistema, c'est un DVD que je vous conseille de vous procurer, Gustavo Dudamel dirigeait l'orchestre Simon Bolivar. Lorsque cet orchestre se produit au Venezuela, l'affluence de ses concerts est telle qu'ils sont triplés, quadruplés, quintuplés et que les files d'attente commencent 10 heures avant le début du concert. Gustavo Dudamel est désormais le directeur musical de l'orchestre de Los Angeles. Et l'orchestre Simon Bolivar est l'une des phalanges les plus respectées mondialement au niveau d'excellence des grands orchestres européens, américains ou asiatiques. D'autres très jeunes chefs vénézuéliens ont fait des débuts étourdissants, Raphaël Payard, directeur musical de l'Orchestre d'Ulster, qui vient à 33 ans de diriger à Paris l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Ou encore Diego Matheus, nommé à 30 ans directeur musical de l'Orchestre de la Fenice. Les musiciens de l'Orchestre Simon Bolivar sont désormais adultes. Et il existe un Orchestra Sinfonica Infantil National du Venezuela, composé de jeunes musiciens et musiciennes âgés de 9 à 16 ans, que Sir Simon Rattle a dirigé à Salzbourg en 2013 dans la première symphonie de Gustav Mahler. On ne peut être que sidéré par la concentration de ces enfants, par la qualité du résultat obtenu sur une œuvre magistrale du répertoire, et enfin par le fait que ce grand maestro les dirige comme il dirige le Berliner Philharmoniker, sans aucunement simplifier sa battue. On aurait pu continuer longtemps. Et je pense que si on fermait les yeux, on n'aurait pas imaginé que ces enfants avaient 10 ans ou 12 ans. Il y a maintenant des centaines d'orchestres au Venezuela, de tous les niveaux, mais tous fondés dans le but de créer une véritable famille. L'idée de lutter contre l'exclusion, la pauvreté et la violence par le biais de la musique classique est particulièrement judicieuse. Nombre de ces enfants viennent des quartiers pauvres du Venezuela appelés « barrios », qui sont particulièrement dangereux et dans lesquels ils sont exposés à la plus grande violence. Les orchestres d'El Sistema créent du lien social, donnent un espoir d'insertion et de statut dans la société qui va bien au-delà de l'émotion musicale. Ils sont installés partout au Venezuela, y compris dans des zones reculées, voire près de déchetteries.
Sistema, hacemos mucho énfasis en eso, que los niños vivan y sientan la música cuando tocan. Van a tocar un solo, decimos sientan la música, sientan. No que está desafinado, no que está pasando mal el arco, ok, no problema, es siente la música, mira lo que estás haciendo y en el camino vas arreglando la técnica, pero vive la música.
Le fait de ne pas attendre que les enfants possèdent la technique de leur instrument pour leur donner le sens de l'orchestre est parfaitement adapté à la société vénézuélienne. El Sistema va même plus loin, les enfants intègrent l'orchestre avant même de disposer d'un instrument. C'est l'orchestre de papier, dans lequel de très jeunes enfants disposent d'un instrument en papier ou en carton, qui ne produit aucun son, mais grâce auquel ils vont pouvoir s'habituer au geste de la musique et à la discipline de l'orchestre tout en chantant. Lorsque l'instrument rêvé arrive quelques mois plus tard, c'est la voix absolue, alors que l'habitude du vivre ensemble est déjà acquise.
Hay que tocar más cerca del puente, porque si no, no suena bonito, ¿ok? Ok, ahora vamos a hacer las figuras musicales. Un, dos, tres. Las figuras musicales, ¿dónde, dónde, dónde está? Quiero usted, mi canción empezar. Quiero usted, mi canción empezar. Por la negra vamos a cantar, por la blanca ta, ta. Las corcheas hacen ta, 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 ta. Las redondas ta.
La Orquesta de Papel nació hace 2 años. Fue una iniciativa que surgió primero porque no habían instrumentos para los niños. Entonces se nos ocurrió que hacer unos instrumentos de papel.
Es un proceso de la Orquesta de Papel que dura aproximadamente entre 3 y 5 meses. Luego de estos 3 y 5 meses, los niños pasan a tomar su instrumento real y ya van adelantados con muchas cosas para ingresar a la orquesta.
Un élément essentiel de cette extraordinaire aventure, c'est l'excellence pour tous. Dans notre cher pays, la fête de la musique, qui a lieu une fois par an, est l'occasion pour certains de taper sur n'importe quoi ou de brailler lamentablement, pardonnez l'expression, tout en se donnant la sensation de participer, alors qu'il serait préférable d'apprendre d'abord à écouter. Au Venezuela, la fête de la musique, c'est tous les jours, mais dans le cadre d'un véritable savoir acquis patiemment et courageusement. Alors que notre société, dans tous les domaines, cherche systématiquement à baisser son niveau d'exigence pour que le plus grand nombre puisse accéder à un savoir rétréci, El Sistema prend le pas opposé, faire accéder le plus grand nombre à l'excellence.
Puede entenderse en el sentido estático del término. Es una estructura en perpetua dinámica de transformación, de cambio, ¿no?, y de adaptación a las circunstancias bellamente cambiantes del mundo moderno, pues. Y en Venezuela eso, en manos de los jóvenes y de los niños, adquiere una dinámica portentosa.
José Antonio Abreu a su créer une équipe jeune et motivée qui assurera la continuité de son œuvre. Il ne faut pas oublier que le Venezuela présente 2 caractéristiques très différentes de la plupart des pays qui souhaitent suivre son exemple. La première est sociale. Alors que les enfants sont parfois menacés physiquement, qu'ils sont confrontés à la criminalité, au trafic de drogue ou à l'extrême pauvreté, El Sistema apparaît comme une réponse à une situation d'urgence. La seconde est musicale. La musique populaire sud-américaine a toujours été une grande source d'inspiration pour les compositeurs classiques de ce continent. Leurs œuvres ont donc créé un lien vers le grand répertoire classique, romantique ou contemporain. Des compositeurs comme Inocente Carreño, Antonio Estevez, Aldemaro Romero, Evancio Castellanos ou encore l'Argentin Alberto Ginastera ou le Brésilien Héctor Villa-Lobos, très régulièrement programmés par les orchestres vénézuéliens, ont constitué une introduction en partie familière vers la musique classique. Le célèbre mambo tiré du West Side Story de Leonard Bernstein est devenu un cheval de bataille étourdissant d'énergie et de joie de l'orchestre Simon Bolivar. Ce n'est pas le cas lorsque la tradition musicale d'un pays va du bal populaire aux musiques urbaines. qu'il ne s'agit pas du tout ici de dénigrer, mais qui ne constitue pas du tout un vecteur d'approche de la musique classique. Bien évidemment, dès qu'une initiative est à ce point une réussite éclatante, il se trouve un musicologue, de préférence britannique, pour la dénigrer. C'est ce que n'a pas manqué de faire Geoff Baker, pointant la mainmise du gouvernement sur El Sistema sous l'ère Chavez et son instrumentalisation politique. Il est évident que tout homme politique cherchera à profiter à titre personnel d'une telle réussite dont l'impact est mondial. 25 pays dans le monde ont mis en place des systèmes plus ou moins analogues, plutôt moins que plus. Mais en presque 40 ans, force est de constater qu'il s'agit d'un projet d'État qui dépasse le cadre des différents gouvernements. Gustavo Dudamel, qui est la figure de proue d'El Sistema, a toujours essayé de maintenir un équilibre entre l'indépendance du mouvement et la tutelle des gouvernements. La limite de cet exercice a été atteinte lorsque les dirigeants actuels du Venezuela ont souhaité modifier la constitution du pays, ce que Gustavo Dudamel a dénoncé dans les médias. Cette prise de position a eu pour conséquence l'annulation d'une grande tournée de l'orchestre Simon Bolivar. Les musiciens du monde entier, mais bien au-delà, tous les hommes de bonne volonté, espèrent que cette crise ne compromettra pas le futur de cette aventure humaine, artistique et sociale unique dans l'histoire contemporaine. Elle aurait dû depuis longtemps valoir à José Antonio Abreu le prix Nobel de la paix. Je vous remercie.
Merci, cher secrétaire perpétuel. Cette séance solennelle va bientôt s'achever. Et avant cela, je vous propose de mettre une dernière fois à contribution Laurent Petit-Gérard et les musiciens de l'Orchestre Colonne, que je veux remercier en votre nom à tous et les très beaux moments de musique que nous avons entendus aujourd'hui. Donc, comme il est d'usage sous cette coupole, nous allons écouter pour conclure l'œuvre d'un de nos prédécesseurs, Paul Ducas, Fanfare pour précéder la pairie. Whoa!